rime à quoi ? Ça rime à quoi en ce premier dimanche de l'an 2015 aux côtés de Franck Venaille ? Dans ce combat mortel que vous menez contre les forces du malin, Franck Venaille, vous invoquez le pouvoir de la langue. Que les mots parviennent jusqu'à moi, ils deviendront nos alliés. C'est écrit dès la première page de la bataille des éperons d'or que vous venez de publier au Mercure de France. Cette toute-puissance des mots, qui peuvent donner ou rendre, comme on le dit des coups, vous l'éprouvez au quotidien ?
J'ai longtemps fonctionné avec comme un appui... Le quotidien, le réel, je pensais être le réel, est-ce qu'il l'est, d'une certaine manière. Mais j'ai pris de plus en plus de distance par rapport au langage et par rapport à ce qui est antérieur au langage, c'est-à-dire la pensée, les gestes. C'est d'ailleurs curieux de voir comment le langage est dirigé, est mené et conduit par son contraire, c'est-à-dire... des gestes, une espèce de grand remue-ménage physique pour, semble-t-il, protéger cette forme de communication qu'est le langage.
Mais pour vous, ça a été comme une arme. Est-ce que les mots peuvent être une arme de combat dans cette bataille des éperons d'or, entre autres ?
C'est une arme de combat tant qu'on le veut bien. Je suis allé, pour écrire ce livre, je suis allé de nombreuses fois... dans les failles, et j'ai été frappé du fait qu'une fois encore, je me trouvais dans un pays dont je ne parlais pas la langue. La bataille des éperons d'or, c'est Courtrai, Kortrijk, et c'est donc en pleine terre flamande. C'était une attitude sciemment décidée. J'ai fait exprès de ne pas apprendre cette langue qui était, je crois, la mienne, pourtant. Donc le langage, c'est à la fois tout et rien. Ça peut paraître simpliste, mais c'est tout, c'est ce qui englobe la pensée, et c'est rien, parce que dans les moments de grande tension, le langage se raréfie, se devient unique, mais c'est remplacé par des hurlements, des cris, de la fureur. Mais j'aime bien ce moment où, par exemple, dans une compétition sportive, les joueurs pénètrent sur le terrain, je pense au football, ils se parlent, et ensuite c'est le grand silence. Ça montre à quel point le langage n'est qu'un des éléments de la communication. Il y a aussi les gestes ou les cris qui nous font ressembler tellement aux animaux. Il n'y avait pas très longtemps, j'étais marqué par un bruit qu'on ne remarque peut-être même pas. C'était dans une forêt. En passant sous un arbre, j'ai entendu de sorte que j'ai pris ça pour des appels au secours d'oiseaux qui étaient en fait en train de combattre des prédateurs d'autres oiseaux. Moi, je ne pouvais rien faire. Et j'ai pensé que, décidément, le langage, à un moment donné de son existence, était insuffisant pour communiquer. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Chaque jour, je parcours des distances infinies qui me font traverser les anciennes frontières. Mon but, aller voir comment fonctionne le monde. Je reviens à chaque fois brisé. L'état de guerre n'en finit pas. À terre, les corps encore, copeaux de chair, lourds sacs, déserteurs aux membres là. Alors que du ciel, le soleil noir, le soleil aveuglé, tente de s'extirper. Tremblement. La consigne est toujours la même, pas de prisonniers. Alors le glaive, Mais que ferai-je de ma vie lorsqu'il sera devenu noir de sang? Dois-je l'avouer? Je suis désespéré, me retrouve quoi? Enfant. Que s'est-il passé autrefois que je n'ai pas compris? Jamais admis. Pourquoi ce sang? Le rouge couleur du combat mené contre les forces du malin. Mais que les mots parviennent jusqu'à moi, ils deviendront nos alliés. Chacun. Enfin, considérer le langage comme l'arme de la connaissance. Chaque jour, chaque fois que l'animal en moi s'exprime. Quel ermite pourra me conduire sur le chemin rayonnant des petites aubes? Que les mots tiennent tête à la lumière artificielle sortant des marécages? Que peut l'art dans cela? D'où lui viennent ses pouvoirs? Quoi? Je me tiens devant vous et je dis, j'ai le pouvoir de donner et celui de reprendre.
La guerre est omniprésente dans vos livres. Celle d'Algérie qui vous aura marqué à jamais, Franck Venaille, et dont vous avez parlé aux éditions de Minuit dans les années 70, mais aussi toutes celles passées et à venir, à commencer par cette bataille de Courtrai du 11 juillet 1302, dite des éperons d'or, qui opposa l'armée flamande à la France. Alors, est-ce que ce sont les éperons d'or qui vous ont retenu, vous qui peuplez vos poèmes de chevaux, ou bien cette glorieuse victoire des milices flamandes contre Philippe le Bel, puisque vous vous sentez profondément belge?
C'est-à-dire que c'est une bataille qui résumait tous les problèmes linguistiques et autres de la Belgique. Les forces flamandes, c'était des milices, mais c'était plutôt des braves commerçants. Donc tout ça avait un côté un peu dérisoire.
Peu entraîné par rapport aux Français.
Oui, et les qualités humaines, peut-être, ont fait que les chevaliers français, arrogants et portant la petite moustache fine, se sont fait massacrer. J'ai fait très attention à ne pas ramener ça à l'origine de la séparation des langues en Belgique, parce que ça ne me regarde pas d'ailleurs.
Et pourquoi l'a-t-on appelée la bataille des éperons d'or?
Parce que les cavaliers français, on peut penser à un film d'Eugène Steen où on voit les chevaliers teutoniques arriver sur le lac, être engloutis parce qu'ils sont bien trop gros, trop lourds. Les chevaux sont protégés aussi. Et donc, tout ce beau monde est englouti. Et là, c'est pareil. La bataille des éperons d'or, c'est les chevaliers qui, je pense, avaient des moyens financiers importants, portaient tous des éperons d'or. Notre brave paysan flamand avait parcouru le champ de bataille et a coupé les moustaches de chacun des chevaliers français, la moustache étant considérée comme le signe de la virilité, de... C'est ça qui m'a touché, de voir que des hommes pouvaient modifier le cours du destin, tout ce qui était écrit. Parce qu'au départ, ils n'avaient aucune chance de triompher. En même temps, ça touchait très, très, très peu de gens. C'est, à cette époque, une bataille, même de cette importance, c'était 500 contre 600. Quoi. Mais j'ai fait attention à pas faire de l'histoire, parce que d'abord je ne suis pas historien, et puis je ne me suis pas donné le droit, et puis il faut le dire quand même, je suis poète, quoi. Le bonheur, c'est un grand mot, parce que je suis vraiment heureux de ce que j'écris, et de ce que je relis surtout. Je trouve que j'ai une manière d'aborder le malheur qui parfois me trouble, me fait peur. Donc il fallait tenir compte à la fois de la réalité historique, quoique je me donnais tous les droits pour jouer avec elle. Et puis la réalité humaine de chacun, et donc celle du narrateur, qui est moi, bien sûr. Mais moi, je n'arrive pas à me débarrasser de cette passion que j'ai pour l'architecture, la vie en Flandre, tout en sachant bien que c'est pas toujours joli, la réalité. Par exemple... Je ne connais pas de pays au monde. J'ai dit un jour, je n'aurais pas tant écrit si je n'avais pas tant voyagé. Donc, je sais de quoi je parle. C'est le seul pays au monde où on peut se trouver à 8 heures du soir, Vous savez, l'hiver, au moment où il commence à faire nuit, il fait froid, on se demande pourquoi on est là sur Terre. Et j'ai vu arriver, tout au bout de la rue droite, un train, avec un phare, seulement un phare, qui était comme un œil, qui jugeait les gens. Et j'ai pensé que c'est un pays qui joue avec le fantastique, mais qui n'en est pas dupe. Voir arriver ce train avec un seul phare, et qui balayait comme ça la voie, et j'ai trouvé que c'était à l'image de ce qu'était le pays, quoi. Du plat sur du plat, entouré de plats, et puis de temps en temps, comme un grand rire de Cressel. À voix basse, je vous ai parlé. Je ne me souviens pas du lieu, du jour, de l'heure, mais j'avais trouvé la force de lutter contre ça. Ça qui craque, geint, se plaint de trop de lumière. Ainsi, à voix basse, avons-nous évoqué notre destin. J'étais cet homme meurtri qui frôle les murs de la ville rédimée, la ville qui tôt le matin. Mais est-ce bien cela dont nous avons parlé ? J'attendais que la nuit s'empare de nos tourments, de nos chagrins, afin de renouer avec vous notre dialogue dans le noir, là où les mots prennent un sens nouveau et d'où tout mensonge est banni. Il existe une manière de s'adresser à l'amour lui-même. Il ne faut pas la craindre. La table était encore dressée, mais je ne me souviens plus si j'étais moi-même invité. Doucement, je vous ai parlé et nous avons pleuré sur notre tranche destinée.
France Culture, ça rime à quoi ? Sophie Nolot.
Il y a ce « ça qui revient », Franck Venaille, ce « ça qui vous hante », c'était le titre de l'un de vos derniers livres, de même au Mercure de France, ce « ça qui craque, geint, se plaint de trop de lumière », c'est ça aussi le destin ? Avec deux lettres seulement.
C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans les moments d'extrême complication, je pense à une guerre, des manifestations, à la maladie, on s'aperçoit que le langage qu'on utilise se raréfie au fil des jours et que si on reste un certain temps dans un hôpital, à la sortie, on a envie de ne plus rien dire.
Comme une rivière qui s'assèche.
Voilà, devoir assumer le destin, c'est un grand mot, mais la réalité de la maladie, cette réalité passe par l'amenuisement du vocabulaire.
Et cependant, Franck Venaille, vos livres ne sont pas du tout asséchés. Vos mots de poète sont toujours là et tout aussi fluides.
J'espère. En même temps, je pense que la poésie, c'est pas la belle écriture. C'est pas que ça. Les gens ont tendance à penser, ah oui, la poésie, c'est la beauté. C'est, si vous me permettez de dire ça, je t'en fiche. C'est le rapport entre le narrateur et le langage, complètement exacerbé de chaque côté, et le ça, c'est-à-dire tout ce qu'on sait du ça dans une psychanalyse et autrement, le ça s'introduit, se glisse, amène avec lui une part du destin, une part de la réalité. C'est l'invité surprise, celui qu'on n'attendait pas et qu'on ne reçoit pas forcément très bien parce qu'il vient nous déranger dans nos habitudes. Je trouve que dans six petits mots, ce petit mot contient une multitude d'événements, de fragments du réel. Ça, c'est un autre mot qu'on pourrait donner à fragment. Fragment, c'est ce qui aurait pu être grand, ce qui aurait pu emballer la troupe et la cavalerie, les chevaux toujours. Et c'est le miroir de nos vies. On se regarde dans un miroir et on se dit, ah, ça, c'est peu de choses. En même temps, je pense que j'avais besoin de ramener mon expérience de la vie. Je ne vois pas d'autre manière de m'exprimer. À la naissance, à ce qui était à l'origine de tout. C'est-à-dire ça. Donc, ce n'est rien. Les pansements, l'odeur des terres, migraine par journées entières, le pouvoir, quoi. C'est moche. C'est surtout moche du côté de l'élégance dans la pensée. Moi, par exemple, dans la guerre qui oppose Marie au soldat Wozzeck, je ne me prononce pas. C'est la lame d'un couteau qui en décidera la nuit venue. Penchez-vous vers le lac. Entendez-vous les bruits nocturnes du chant d'homme ? Ce n'est rien. Ils sortent de la vase. Leur visage interpelle la nuit. J'aime ce pays. J'ai longtemps cru que les tourbières, leurs couloirs de première main, conduisaient directement à la grande roue et les kermesses de février. Hélas, ces trous à ordures fortes, trous qui va se manger lui-même, s'ingurgiter, se digérer qui est venu vers moi. Tourbière, ce n'était que de l'enfantillage. Donc il roule des trains de pleine journée. Il n'aime pas le vide, où l'on s'observe d'un voyageur l'autre. Dans son compartiment de première classe, jambes allongées sur le fauteuil qui lui fait face, il a conservé ses chaussures pleines de cette terre pour laquelle il vient de combattre. On roule. Les pages des journaux l'accompagnent sous ses talons. Il fume. Qui oserait assumer ce hiatus entre le théoricien de guerre, façon Karl von Clausewitz, et le retour chez lui d'un militant? Il pourrait être le père de ces jeunes gens trébuchant dans le couloir suite à une longue période de privation de sommeil. Je parle des jeunes appelés qui, affolés par les images de guerre, rentrent chez eux. On roule. Tous se demandent qui est cet homme qui tout à l'heure est descendu sur le quai. Acheté de Rodevan et le drapeau rouge. Camarade. Maintenant, on franchit un viaduc commun qui n'a jamais vu la mer. Et c'est un grand coup de grolle qu'il ouvre la porte, donnant sur la voie. Vite, il était prévu que le train ralentisse là, 15 secondes pour lui. La guerre se mesure aussi. Là, ce que j'aime bien, c'est que ça bouge. On roule.
Encore un train, alors ?
Encore un train, oui.
Je ne sais pas, ne sais plus pourquoi je suis si en colère contre la vie. Écrivez-vous quelque part, Frank Venaille, dans La bataille des éperons d'or. Avec cette façon aussi un peu enfantine, parce qu'il y a beaucoup d'enfance, en dépit de la colère de ce livre, beaucoup d'enfance dans ce livre-là. La tournure, je ne sais pas, ne sais plus pourquoi. Et il y a le petit à la fin qui dira aussi qu'il n'a pas la réponse. Mais en même temps, vous vouliez dire quoi ? Parce que c'est très doux, finalement. À plus de 77 ans d'en arriver là.
À plus de 77 ans, oui. On devrait avoir compris l'essentiel. Et moi, il me semble parfois, je me suis approché de la vérité. C'est-à-dire qu'on va mourir. C'est pas plaisant à dire et à entendre, mais une des forces de la poésie, c'est comprendre pourquoi et comment. Il ne faut pas chercher à comprendre et à savoir ce qui va se passer après. Il faut laisser un champ de papier blanc sur lequel on écrit, sur lequel on peut mêler avec bonheur l'enfant qu'on a été et l'adulte que l'on est. Moi, j'ai toujours la sensation que jeune homme, il y a quelque chose qui m'est arrivé et que je n'ai pas compris. Et je n'ai pas compris en lisant pourtant ceux et celles qui devaient m'apporter des réponses. C'est un texte qui fait référence à mes 17 ans, 18 ans. C'est une époque où je lisais énormément. Je faisais rien d'autre. Et je vois que 60 ans plus tard, après, j'en suis encore à descendre acheter le Rodevan, qui est le journal des partis communistes flamand quand il existait, et le drapeau rouge qui est le journal du PC belge. Et ce sont des journaux qui, bien sûr, ont disparu et qui étaient tirés à 500 exemplaires. J'aime bien créer quelque chose d'un peu mythique comme ça, tout en sachant que c'est faux, que c'est,
Mais ce chant-là, Franck Venaille, ce chant poétique, il peut perdurer longtemps, bien après la mort, puisque vous-même, vous publiez un livre qui s'appelle « La bataille des éperons d'or » et qui parle d'une bataille qui a eu lieu en 1302.
Je répondrai, la bataille des éperons d'or, j'y étais.
Et où sont-ils aujourd'hui ces éperons d'or que les Flamands avaient pris comme butin de guerre aux Français et que les Français leur ont repris ensuite?
Oui.
Aujourd'hui, vous en parlez comme de la cendre sur un reste d'éperon, est-ce qu'ils existent encore?
En fait, c'est un hommage que je rends aux chevaux. Parce que la guerre avec des petits officiers à moustache blonde, c'est quelque chose de ridicule et de grave. On peut ironiser dessus, alors que pour moi, on ne peut pas se moquer de la mort d'un cheval.
Parce que c'est à cause des tourbières qu'ils ont perdu, parce que les chevaux
les chevaux s'enfonçaient. C'est très étrange quand on est... Moi, j'y suis allé très très souvent au bout d'un moment, quand on est seul ou à deux, enfin. Il y a une anxiété qui sort des tourbières, quelque chose d'impalpable, qui ressemble à de la fumée, à un nuage.
Il est une femme aussi dans cette bataille des éperons d'or, Franck Venaille. C'est elle qui vous précède en tout lieu. Bouge ou palace, comme vous l'écrivez, et c'est elle aussi qui a le dernier mot. Je suis l'expression de la douleur, j'ai toujours pensé que c'est à vos côtés que je trouverai ma place. Et c'est là-dessus que le livre se referme.
Oui, j'ai beaucoup réfléchi pour voir quel était le sens le plus exact que je voulais donner au livre, et j'ai pensé que l'honnêteté voulait que je mette en avant la douleur. Douleur d'écrire, ça, c'est encore faisable. Douleur d'être, douleur de vivre. J'ai toujours pensé que la vie était... était invivable. Qu'il fallait s'appuyer sur beaucoup de forces intérieures pour tenir le coup, résister au choc.
Au chaos, comme disait l'un de vos livres aussi.
Oui, et moi, il m'est arrivé dans la vie d'être chaos, il y a très longtemps. Mais c'est dans le même corps, la même voix, la même respiration. Et c'est peut-être pour ça que j'ai terminé sur la douleur, parce que je pensais que c'était l'un des sentiments les plus justes qui existait. On ne pouvait pas tricher avec la douleur. Je suis très grand, je suis infiniment petit. Mes victoires emportent témoignage. Des êtres se laissèrent conduire. C'était bien l'hiver, souvenez-vous-en. Vers mon sac à dos de guerrier, d'autres dans la plus vaste suite d'un hôtel 5 étoiles. J'aimais ces deux manières de vivre et de combattre. Je me souvenais du père jésuite qui avait dirigé mes études. Homme de peu d'âge. Mais que devenons-nous dès la fin de ce repas, qu'il faut bien nommer frugal? Sur tout cela, je savais peu de choses. Des bruits couraient sur la plénitude de ceux qui retournaient la terre paysanne. D'autres se jetaient à l'eau avec rage, portant les bases de la question unique « Que devenons-nous après ?» Dans ce silence de mort, un soldat blessé dressait le constat fatal. Qu'il soit géant ou bossu, très grand ou infiniment petit, la situation était désespérante. Pourtant, il fallait continuer à se battre pour demeurer fidèle à la charte signée autrefois par nos pères. Les monstres montraient alors un visage plus rayonnant, à l'eau de tous les étangs. Ainsi ai-je connu très tôt l'embrasement intérieur, un état proche du délire. C'était ma tentation, mon crève-cœur.
Il fait dimanchement triste où règne le silence. L'absence des oiseaux m'entraîne vers une vie morne, où grandement j'ai regret d'avoir brûlé mes ailes. Alors vous disiez, Franck Venaille, que la poésie n'était pas là pour être belle, mais il y a beaucoup de beauté dans vos vers. Ce dimanchement nostalgique totalement inventé qui appelle le grandement à venir et le trouble des regrets, un peu à la manière d'un poème d'antan qui lui aussi serait sorti de ce champ de bataille des éperons d'or. Il faut du courage pour donner à lire une part aussi intime de soi.
C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup pensé à Jules Laforgue.
C'était joyeux alors un peu.
Oui, c'était joyeux, sanglant mais joyeux. Là, je pensais à cet homme qui meurt si jeune, et à sa femme, cette petite Anglaise aussi, qui meurt avant lui. Et je pensais que c'était bien à l'image de la vie, que les sensibles, je vais appeler ça comme ça, les sensibles meurent toujours trop tôt.
Et ce mot de condottiere, qui réapparaît un peu comme un leitmotiv italien dans vos poèmes de livre en livre, tout flamand que vous vous rêvez, Franck Venaille, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous ce mot-là, qui est tendre à l'oreille, plus tendre que celui du commandeur, mais en même temps, on entend la même stature d'autorité.
Oui, on la voit aussi à Venise, il y a un homme sur son cheval devant l'hôpital. Ce serait quelqu'un qui partirait faire des guerres et qui confierait ses états d'âme à son cheval. Moi, parmi mes souvenirs de toute petite enfance, il y a le souvenir d'un cheval que mes cousins paysans possédaient. Je partais souvent avec mon cousin et son cheval chercher du bois ou vendanger ou s'occuper de la moisson, selon l'époque. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'ai d'abord pensé que j'étais amoureux, enfin que j'aimais mon cousin, qui était un militant communiste, forcené, avec le portrait de Staline dans la cuisine. Et puis je me suis rendu compte que c'était sur une autre voie qu'il fallait chercher. Et en fait, j'étais amoureux des chevaux.
C'était un transfert.
Oui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part d'accomplissement, voire de plaisir à écrire, par exemple, ces deux vers-là, Franck Venaille, qui sont sobres et superbes à la fois, un peu comme un jet d'eau vénitien lui aussi. Je me suis retourné, pensif, sur la diagonale de ma vie.
Je voulais que le livre repose sur une prose travaillée, mais qu'aussi se glisse à l'intérieur des petits poèmes qui me demandent un mal fou à être écrit. C'est-à-dire que j'ai cru longtemps que la poésie pourrait me permettre d'échapper à ce poids, mais j'ai vu que la poésie me soit raccourcie dans ce sentiment que tout est dit en peu de mots était l'équivalent du cheval de mon enfance. C'était quelque chose sur lequel je pouvais me reposer et puis le serrer dans mes bras. J'ai eu une période de ma vie où j'étais contre la poésie. J'ai participé à un essai qui s'appelait « Haine de la poésie ». Donc je ne pouvais pas faire pire, je ne pouvais pas faire mieux aussi. Et puis petit à petit, la poésie nouvelle, si j'ose dire, est revenue vers moi. Et maintenant j'ai l'impression que je peux tout dire.
La bataille des éperons d'or, par Franck Venaille, est au Mercure de France. Ça rime à quoi, 24h sur 24 sur franceculture.fr, pour réécouter durant 1000 jours et nuits et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi, Valérie Lavalard, Claire Levasseur, Jean-Louis Deloncle, Sylvia Favre, Patrick Molinier, Sophie Nolo. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.